Libé, labo.
Le 11 novembre 2008, Benjamin Rozou, 30 ans, a été arrêté à Tarnac dans le cadre de l'enquête sur les sabotages des caténaires SNCF. Placé en garde à vue, mis en examen, puis placé en détention provisoire, il a été libéré sous contrôle judiciaire le 2 décembre dernier. Pour Libération, il raconte ses 3 semaines de détention et d'interrogatoire. Il est interrogé par Laurent Geoffrin, Paul Quignot, Gaël Cognier et Jackie Durand.
On est le 11 novembre au matin à Tarnac. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ?
Je dors. Donc 6h du matin, et la maison est investie au cri de police. On entendait brûler des câbles et quêtes dans l'escalier. Et puis tout l'étage est investi en quelques secondes. Quoi, avec une vingtaine de policiers, des gardes mobiles. Donc, au début, on ne comprend pas grand-chose. Toutes les portes sont ouvertes. Tout le monde est tenu en respect. Pas bouger. Moi, on m'interdit de m'habiller pendant 10 minutes. Et puis première chose, ils vérifient l'identité des gens. Et on se rend compte qu'ils ont des ordres pour chercher des gens en particulier. Quoi. Moi j'ai dit, alors moi je me présente tout de suite parce que comme je suis responsable du lieu là-bas, je me suis signalé comme tel quoi, pour qu'il y ait un interlocuteur. Quoi. Et donc quand ils ont su mon nom, je me suis fait menotter immédiatement. Et puis après seulement on m'a permis de m'habiller. Toutes les autres personnes ont été mises dans une autre. Ont été toutes mises ensemble dans une pièce et moi j'étais seul dans une autre pièce. Quoi.
Il y avait combien de personnes ?
Je sais pas, 7 je pense à la maison.
Et là il se passe quoi ?
D'abord je vois celui qui semble être le chef de l'opération, qui est un enquêteur de la SDAT assez jeune, mon âge à peu près, qui fait un peu le malin et puis qui me dit ah Benjamin, qui me parle de façon très familière, comme ça, on se connaît bien. Je dis, moi, j'ai pas le plaisir de vous connaître. Il me dit, si, moi, je te connais. Enfin, en tout cas, moi, je te connais bien. Il me dit, tu faisais moi le malin à Vichy. Comment directement comme ça. Ensuite, il va faire le tour. C'est lui qui vérifie un peu l'identité de tout le monde et qui voyait ce qui était utile à garder ou pas. Quoi. Jusque-là, je sais toujours pas de quoi il s'agit exactement. Donc, le gendarme, qui sait pas non plus. Regarde le papier et me dit « Ah, vous êtes un gros poisson, il s'agit d'une affaire de terrorisme. » Alors là, il fait un gloops. Et donc, ils m'ont rien expliqué. J'ai pas pu savoir, je lui demandais à plusieurs reprises, qu'on me dise pourquoi, si j'allais te garder longtemps, parce que je devais faire la tournée ce jour-là, en fait. C'était moi qui conduisais le camion d'épicerie. Donc j'essaie de savoir si...
C'est
une épicerie, on a une épicerie mobile, en fait, qui passe dans les hameaux, tous les jours.
Vendre des trucs aux gens,
voilà. Mmh. Et moi, je fais ça, enfin, je partage ce boulot-là avec d'autres personnes sur l'épicerie. Et donc, ce jour-là, c'est moi qui devais y aller. Et donc, j'essayais de savoir si c'était juste une perquisition, et, auquel cas, j'allais éventuellement pouvoir partir en retard, mais le faire quand même. Et moi, ça signifiait que, pour moi, en tout cas, ils allaient me garder pendant un petit moment.
Mais là, à ce moment-là, vous n'aviez aucune idée de la raison pour laquelle ils étaient là ?
Non. Moi, je voyais les écussons section antiterroriste, et puis il m'a dit, en lisant le papier, que c'était une affaire de terrorisme. Alors là, je compte. J'étais assez surpris.
Là, vous êtes habillé ?
À ce moment-là, j'ai même permis de mettre un pantalon et une chemise.
Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, les policiers ?
Ben, ils contrôlent les papiers, pratiquement, ils contrôlent les papiers des autres personnes. Puis il y a un temps d'attente, parce qu'en fait, on comprend par les communications qu'il y a entre eux, qu'il y a d'autres lieux en même temps qui sont perquisitionnés. Mmh. Les noms, il y a des noms qui... on sait à peu près où ils sont passés. Quoi. Mmh. Et donc cette personne-là, qui est l'inspecteur principal, il semblait coordonner l'ensemble. Et donc il y avait des temps de latence où lui essayait de savoir ce qui se passait ailleurs, ce qu'il en avait trouvé d'autres gens. Donc,
est-ce qu'en même temps, ils cherchent des choses ? Est-ce qu'ils font une perquisition ?
Jusque-là, non. Là, pour l'instant, la première heure, en fait, c'est simplement une espèce de repérer qui est là, sécuriser la zone, enfin comme il dit. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui revient. Oui, on a trouvé, parce qu'il y a des roulottes, en fait, sur le terrain. Donc ils trouvent que un peu plus loin que la maison, ils en trouvent deux autres, et quelqu'un qui arrive pour prévenir le dit inspecteur. Et moi, sachant que dans une de ces roulottes, il y a des enfants qui dorment, je leur dis allez-y mollo, c'est pas la peine, c'est avec des gamins. Puis il me dit mais qui est avec eux, dis-le nous, qu'on sache si on doit y aller arme au poing. et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à faire le tour et à identifier tout le monde, là commence la perquisition proprement dite. Quoi. Mmh. Ça a duré très longtemps, ça commence à 6h du matin, on n'est pas parti avant 3h de l'après-midi, je crois.
Mmh. Et qu'est-ce que c'est la perquisition ?
La perquisition, c'est une mise à nu existentielle, quoi. C'est, on passe tout, les lettres, les photos, les vêtements, tout est sorti, tout est... Et donc on passe de chambre en chambre et tout est épluché. Ils cherchent principalement des papiers, évidemment, enfin des textes, quoi.
La question de savoir si vous avez des armes.
Première chose qu'il me demande, c'est ça, est-ce qu'on risque de trouver des armes? J'ai dit non. En leur disant aussi que, puisqu'il semblait si bien nous connaître, il devrait s'en douter, quoi.
Et ils mettent les ordinateurs sous CD?
Moi, j'étais dans la ferme, hein. Donc dans la ferme, il n'y a pas d'ordinateur.
C'est
à l'épicerie qu'ils ont saisi les ordinateurs, et dans un autre appartement. À la ferme, c'est un lieu de passage, du coup, il y a régulièrement des gens qui viennent pour des chantiers, pour des choses. Donc il y a des collections de brosses à dents qui s'accumulent au fil des mois. Mais ils ont pris tout, les brosses à dents des enfants, les peignes des enfants. Tout a été mis sous scellé. Et puis, ce qu'on a su après, ou pendant, c'était qu'il y avait eu aussi perquisition à l'épicerie, qui est dans le village. Donc la ferme, c'est un hameau, en fait, en tant que tel. Ouais. Et puis, il y a une perquisition aussi à l'épicerie que j'ai repris avec deux autres personnes.
2003.
Non, 2007. Ça fait un an et demi, en fait, qu'on a repris l'épicerie.
Ouais, donc on est à l'heure, on est une heure après, on est en pleine perquise, là.
Ils ont trouvé les trucs qui vous paraissent emmerdants, ou...
Comment vous voyez? Ils vous ont montré ce qu'ils trouvaient, tout ça?
Oui, parce qu'en fait, ils ont mis tout le monde dans une pièce, et moi, ils m'ont pris avec eux pour faire la perquisition. Normalement, ils ont besoin d'avoir une personne qui les accompagne, et qui signe les...
Oui, pour éviter les Irlandais de Vincennes, où ils apportent eux-mêmes les trucs, quoi.
Ouais, parce qu'ils évitent pas forcément, étant donné qu'eux, pendant deux heures, ils ont la maîtrise totale de la maison, et nous, on est enfermés, hein, donc... Ouais.
Oui, ils auraient pu le faire, quand
et
même.
Et donc, là, vous faites quoi? Vous allez dans toutes les pièces?
Donc, ils me traînent dans les pièces, on va dire. Et donc, je suis menotté, on met une veste sur les... Enfin, d'abord, on fait le tour de toutes les pièces, tous les papiers qu'ils trouvent qui leur semblent intéressants, parce que généralement, alors je vois très vite qu'ils cherchent visiblement tout ce qui est texte, ils pourraient rapprocher de ce qu'ils font comme idée, de l'anarchisme, l'autonomie. Donc, ils trouvent essentiellement ça, des brochures, des tracts, des textes internes, parfois des contours de réunion. Et donc, on fait le tour de la maison. Dans la maison, on ne trouve pas grand-chose qui les intéresse, visiblement. Tandis que c'était surtout la plupart des chambres dans la maison, c'est des chambres de passage, en fait, donc il n'y a pas d'affaires personnelles entassées, par dans la mienne où il y avait ça, quoi.
Mais à vous, ils ont pris des affaires plus personnelles, par exemple?
Moi, ils ont saisi des photos de famille, de ma grand-mère, de mes vacances. J'ai eu un peu tout après qu'ils m'ont sorti, parce qu'ils m'ont ressorti en garde à vue.
Et après, la perquisition, elle se poursuit dans, on va dire, dans ce qui est plus atelier?
Ouais, atelier, dépendance.
Et là, qu'est-ce qu'ils prennent?
À mon avis, ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent encore à ce moment-là. Ils sont... En y pensant après, dans l'atelier tel qu'il est fait, je pense qu'ils auraient pu trouver des choses nettement plus significatives par rapport à ce qu'ils voulaient. Ils ont saisi deux coupes boulons dans l'atelier. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont pris dans l'atelier, quoi. Donc ça, moi, à ce moment-là, je comprends pas trop à quoi ça correspond. Après, on a fait le tour de toutes les caravanes individuelles, donc certaines qui sont désaffectées, mais où il reste des choses, parce que des gens ont passé l'été dedans, des choses comme ça. Donc là, ils trouvent encore des tracts, ils trouvent des extraits de textes, notamment des extraits de l'insurrection qui vient. Mm-hmm. Des photos, alors souvent des photos de l'AFP, des manifestations, des choses comme ça, qui sont... Des carnets manuscrits, ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est manuscrit. Donc, tout ce qui est prise de notes, carnet intime. Et alors à un moment, ils ont fait... de temps en temps, il y a quelqu'un qui revient avec un grand sourire parce qu'il y a quelque chose de significatif. Donc c'est le cas de l'histoire des coupes boulons. Et puis, dans une roulotte, il y a quelqu'un qui trouve une brochure qui sort triomphant et puis qui dit « J'ai trouvé une brochure sur l'autonomie ». Et c'est une brochure en diffusion libre sur l'autonomie parisienne des années 80, quoi. Donc après, l'enquêteur principal a dit « Oui, bon, bah, prenez-le, mais bon, c'est pas probant, quoi. Ils ont trouvé aussi une brochure qui était sur... une brochure qui était sortie en décembre 2007, quand il y avait eu, je sais pas si vous avez suivi ça, qui s'appelait « Mauvaise intention », qui était sur des personnes qui s'étaient fait arrêter dans les manifestations de sans-papiers. Avec des fumigènes, voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est les intéressés aussi, de trouver ça là, même si c'est en accès libre sur Internet.
Mais à ce moment-là, vous savez pas, toujours pas pourquoi ils font tout ça.
Ben, disons, moi, je fais le lien avec ce qui semble être en cours depuis un moment, quoi. Tout le scénario d'Alliot-Marie sur les narco-autonomes, je tombe pas des nues non plus, je vois bien que c'est ça qui les intéresse, que c'est ça qu'ils essaient de prouver.
Mais pas les TGV, pour l'instant, vous savez
pas. Les TGV, pour l'instant, du tout, non.
Il vous en parle?
Il m'en parle pas, du tout. Le seul truc qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est la fin, quand ils sont revenus, qu'ils ont pris Libération en montrant cet article-là. Mais jusque-là, eux, ils m'en ont pas parlé du tout. Et voilà, ils me demandent quand même qui l'a amené là, qui a été l'acheter. Et voilà, je dis, bon, on est abonné, quoi. Donc,
Et pendant ce temps-là, les autres personnes sont toujours...
Les autres personnes sont toujours enfermées dans une pièce en haut. Ça dure de 8h du matin à 15h, quoi.
Et vous allez aussi en perquise à l'épicerie?
Non, non, non. Moi, je quitte pas la ferme.
Et là, on va arriver à quelle heure ? Donc, la perquisition s'achève à quelle heure ?
La perquisition s'achève parce qu'il y a d'abord la perquisition proprement dite, puis après, il y a les indices scientifiques. Donc, il y avait au moins 5 camions de gardes mobiles dans la cour. Il y avait des gardes mobiles en patrouille par deux qui faisaient des tours, qui se baladaient dans les champs autour. En fait, on me dit que le village est bouclé, quoi. Ah,
ouais.
Toutes les entrées du village sont bouclées et ils contrôlent les gens qui rentrent et qui sortent du village, quoi. Et sinon, il y a toutes sortes de gens. En fait, c'est assez bizarre, c'est d'essayer de deviner ce qu'est la fonction des uns et des autres. Quoi. Parce qu'il y a des gens en costume cravate dont on ne sait pas du tout ce qu'ils font là, ni ce qu'ils sont, qui regardent. Il y a la police scientifique qui sont une dizaine, qui sont assez bons enfants, qui vont jouer avec les moutons, qui sont un peu à la ferme pédagogique. Il y a les gardes mobiles qui sont un peu fumasses, mais qui sont là pour garder dehors. Il y a l'hélicoptère on m'apprend que c'est l'hélicoptère du général de gendarmerie qui fait le tour 3 fois au-dessus pour constater le bon déroulement d'opération.
Ils font des prélèvements sur vous ?
Ah non, pas à ce moment-là, non.
Non.
Au total, à la fin de la perquisition, ils vous disent, voilà, on a trouvé ça, ça, ça et ça, vous vous souvenez de ce qu'ils...
Après, ils refont le tour avec moi et ils me demandent de signer.
Qu'ils ont trouvé
Par exemple, un truc qu'ils ont trouvé dans une des pièces, c'est cette histoire qui est sortie dans la presse après, c'est qu'ils ont trouvé 2 gilets pare-balles dans un sac en plastique posé dans une chambre par terre. Moi, j'avais jamais vu ces trucs-là auparavant. J'étais assez surpris de trouver ça là, surtout vu que je venais d'apprendre que j'étais là pour terrorisme, enfin que j'étais là pour une histoire de terrorisme. Je me suis dit ouf.
Vous savez d'où ils viennent ces trucs-là ?
Non, je sais pas.
Vous les avez vus ?
Je les ai vus dans la chambre, quoi. Ils m'ont amené.
Vous les avez vus dans la chambre.
Voilà. Au début, je me suis pas dit c'est eux qui l'ont mis. Je me suis dit tiens, qui c'est la boutique qui a amené ça là ?
Mais maintenant, vous pensez que c'est eux qui l'ont mis ?
J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas pu savoir d'où ça venait, donc je me pose toujours la question, quoi. Et moi, je leur ai dit directement, j'ai jamais vu ce truc-là, je comprends pas pourquoi c'est là. Et moi, à partir de là, j'ai refusé de signer tous les scellés, quoi.
Ah ouais. Et à qui ils ont trouvé quoi d'autre, là ?
Le seul truc chiant qu'ils ont trouvé, enfin qui est potentiellement chiant, c'est ça. À Tarnac, essentiellement, c'était des lettres.
Après, on a dit, il y a du matériel qui sert à saboter les caténaires, quoi, pour être.
L'escalade, mais c'était pas.
Non, il y a même pas d'escalade, c'est une échelle qu'ils ont trouvé. Ils ont signalé qu'il y avait une échelle. Ouais. Il n'y avait rien.
Mais l'histoire des trucs qui servent à lui faire un béton, je sais pas quoi, c'est ça, non ?
Mais ça, ils ne trouvent pas.
Ça, ils n'en ont trouvé nulle part.
Ils n'en ont trouvé nulle part ?
Non.
Il n'y en a pas, en fait.
Non, il n'y en a pas, ils ont trouvé.
Alors après, ils vous emmènent, alors.
Donc, ils m'emmènent. Bon, je comprends quand même qu'à ce moment-là, ils emmènent aussi Manon, qu'ils ont trouvé par ailleurs, parce qu'elle dormait dans une roulotte plus loin. Et moi, ils me font monter dans une voiture et ils me disent on t'emmène à Paris. Ils me mettent dans le dos.
Quelle heure il est ?
Il est 15h, je crois.
Et donc, vous avez roulé jusqu'à Paris ?
On a roulé jusqu'à Paris. On a été à 160-170 km/h, je pense, à peu près. Sur Ils disaient qu'il faut absolument qu'on soit là-bas avant 21h. Ils ont évité le village pour repartir. Quand on croisait des voitures, ils mettaient une couverture sur la tête. Eux, ils avaient leur cagoule.
Et là, ils vous mettent en garde à vue ?
Ah non, j'étais mis en garde à vue depuis 6h du matin.
Ah, d'accord, vous étiez déjà en garde à vue ?
J'étais déjà en garde à vue. Donc ils me mettent dans la voiture, mais on arrive vers 21h.
Vous êtes dans la voiture ?
Je suis seul avec trois types de la SDAT.
Et pendant le trajet, ça discute
Pas trop, c'est assez sec en fait. Quelques blagues un peu malsaines, et puis des petits coups de pression, dire voilà, de toute façon t'es parti pour un moment, on va pas te lâcher comme ça.
La radio marche ?
Non.
C'est quoi comme voiture ?
C'est pas vraiment fantastique, une espèce de Peugeot gris métallisé. Neuve. Ils avaient les plaques d'immatriculation scotch. Enfin, il y avait du scotch sur les plaques d'immatriculation. Et donc, autoroute, là. À un moment, on s'arrête. Moi, je demande à boire parce que j'étais déshydraté, j'avais rien bu depuis le matin. Ils m'ont amené. Au début, ils voulaient pas. Ils m'ont dit, t'as qu'à boire avant de partir. Là, là. Et on n'a pas le temps. Et puis finalement, il y en a un qui a pitié de moi et puis qui va me chercher un coca. Ce qui est génial quand on est déshydraté de boire du coca parce que c'est encore pire après. Et du coup, on est reparti. Alors moi, j'essaye tant bien que mal de dormir dans la voiture.
Et vous étiez inquiet à ce moment-là ? Dans quel état d'esprit vous étiez ?
Disons, moi j'ai tendance à être assez serein. Je suis pas quelqu'un de spécialement stressé. C'était pas la première fois que je me faisais interpeller. La première fois que je me faisais mettre en garde à vue. Mais. Pas la première fois que je vois des policiers débarquer dans ma maison et puis...
C'était pas la première fois, je veux dire.
C'était pas la première fois.
Ah oui.
Disons que j'avais déjà vu ça. Disons que j'étais pas spécialement... je m'inquiétais pas spécialement. Je me dis, bon voilà, une perquisition pour je ne sais quoi qui s'est passé ailleurs. Je suis surpris, mais pas spécialement angoissé. Je prends pas la mesure de l'affaire dès le début, quoi. Bon, au fur et à mesure, dans la voiture, je commence quand même à me dire... moi, je cogite, forcément. Je réfléchis à ce que ça peut bien être, à ce qui... Je me demande s'il y a d'autres gens qui ont été arrêtés, parce que jusque-là, j'ai l'impression que je suis le seul, sauf à part Manon. Et donc voilà, j'essaie de dormir, et puis on arrive à Paris. Alors là, c'était vraiment le western, quoi. On a roulé sur les voies inverses pour doubler les voitures avec le gyrophare. Et puis d'ailleurs, mis les cagoules dès qu'on arrive à Paris, en fait, aussi.
Ils attendaient à tous les virages, ils attendaient à voir des journalistes sortir.
Ouais. Ils vous ont laissé des menottes pendant tout le trajet?
Tout le trajet, ouais.
C'était comment? Vous êtes accroché comme ça? Dans le dos. Et c'est combien de temps le trajet? C'est quoi? C'est 4-5 heures?
5 heures. Et puis on a fini par arriver à Levallois-Perret. Donc là, à la DCRI.
Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils interrogent tout de suite?
Non, on est sorti de la voiture, et là, ils remettent le sac sur la tête, et donc je vois que je monte des escaliers, j'arrive dans un truc un peu à la Star Trek, tout blanc, avec des sas d'entrée, tout ça. Mmh. Puis j'arrive dans une salle où il y a des cellules avec des vitres en plastique et des stores baissés, une dizaine, quoi. Mais tout est très blanc avec des gros néons, et puis je vois, et là j'ai le temps d'apercevoir qu'il y a des paires de chaussures devant les cellules, quoi. Il y a certaines chaussures que je reconnais, donc là à ce moment-là je sais qu'on est plusieurs, quoi.
Mmh. Ils vous ont fouillé avant de rentrer dans la cellule?
Ils m'ont fouillé avant de partir. Déjà, ils m'ont voulu enlever ma montre, ils m'ont interdit de prendre mes cigarettes avec moi.
Fouillé à quoi?
Bah, j'étais nu quand ils sont arrivés. Après, ils ont pris les vêtements que j'ai pris, ils ont enlevé ce qu'il y avait dans les poches. Et puis au bout d'une heure, je crois, j'ai du mal à me rendre compte du temps, en fait, parce que le temps passe bizarrement. Ils sont venus me chercher dans la cellule, et ils m'ont monté à l'étage, parce qu'en fait, comme la garde à vue a commencé à 6h du matin, il fallait faire une prolongation pour le lendemain matin. Et donc, ils m'ont passé devant la substitut du procureur pour une prolongation garde à vue.
Mmh. Et on m'a remis. Substitut, ça dure 5 minutes
5 minutes,
oui. Où il y a une discussion. Non.
Ils ont parlé de terrorisme à ce moment-là?
Ah oui, depuis le début sur la...
C'était marqué, mais c'est marqué. Ils le disent, le procureur, le substitut, il dit ça?
Oui, il me dit, vous êtes entendu, vous êtes mis en examen dans tel régime.
On n'a pas mis en examen, en garde à vue.
Oui, en garde à vue. Et donc voilà, ça dure 5 minutes, quoi. Elle était là, elle, c'était la substitut du procureur, c'est elle qui avait demandé l'interpellation, donc on sait bien que de toute façon, elle va pas... C'était juste une formalité, quoi. Et ensuite, je suis redescendu, remis dans une voiture, et je suis transféré ailleurs. Et là, on me met avec une autre équipe, je suis plus avec les mêmes... Donc on me remet dans la voiture, je vois qu'il y a une autre personne aussi qui est emmenée en même temps que moi, je vois pas qui c'est. Et donc on est deux véhicules à ressortir, gyrophare, tout le bazar, même cinéma, et on part à Nanterre. Et là on est deux à être mis en garde à vue à l'annexe du ministère de l'Intérieur.
C'est les locaux de la DCPJ, la police judiciaire.
Ah oui. Là-bas il y a des cellules de garde à vue aussi, donc on est mis dans les cellules de garde à vue là-bas.
Mm-hmm. Il est quelle heure quand vous arrivez à Nanterre là?
Il est au milieu de la nuit, il est tard.
Vous n'avez pas dormi?
Non. Donc là, il m'emmène directement en cellule et il me dit à demain. Donc je dors en cellule, c'est fait plutôt froid. C'est des cellules qui sont un petit peu moins modernes que celles qu'on était dans lesquelles on était auparavant, donc c'est assez lugubre, quoi. C'est avec, on a son numéro sur le mur au-dessus de la tête, puis il y a les latrines au bout de la cellule. Puis c'est un petit matelas plastique sur une dalle en béton, quoi. Là, c'est le moment un peu le plus angoissant, c'est quand on passe, parce qu'on n'arrive pas, on est crevé, mais on n'arrive pas à dormir. Mmh. On a le néon dans la tête, il y a une caméra au-dessus qui filme en permanence. Mmh. Et on ne sait pas ce qui va se passer après, quoi. Donc, et le lendemain, je me réveille assez tôt, dès que je vois la lumière du jour. Et ça me met, ils viennent pas me chercher avant 13h. Non, pas 13h. Fin de matinée, quoi. Enfin, je passe un certain nombre d'heures à attendre dans la cellule qu'on vient me chercher, quoi. Là, ils viennent me chercher, et là, après, je pars en audition jusque tard le soir, quoi. Vraiment, des auditions qui durent de 3 à 6 ou 7 heures, quoi. Et au départ, vraiment, alors, c'était...
Alors, les questions, c'est...
Au départ, on m'entretient sur les idées politiques, quoi.
Ah ouais.
Moi, à ce moment-là... Donc là, maintenant, ça devient un peu plus clair pour moi, le cadre général dans lequel ils interviennent, quoi. Donc, est-ce que vous considérez comme anarchiste
Qu'est-ce que vous répondez, alors?
Moi, je leur réponds honnêtement ce que je pense de ça, quoi. Moi, je me considère pas spécialement comme anarchiste, que c'est des choses auxquelles je m'intéresse, et du coup, comme je sens venir vers quoi ils veulent m'amener, je leur parle, moi, de ce concept d'anarcho-autonome, puisque c'est aussi présent sur le PV, ça, il est dit, à ce moment-là, je comprends qu'il s'agit de quelque chose qui a à voir avec spécifiquement Julien Coupa comme figure, et un groupe qui se organise autour de lui, dit anarcho-autonome.
Mais c'était un mot
C'est quelque chose que je vois presque subrepticement, parce qu'avant que je parte, de Levallois-Perret, il y a le type qui a mené la perquisition et les années scientifiques vient me faire signer le PV de la perquisition. Mm-hmm. Me demander si je veux le signer. Et dessus, en fait, je lis l'intitulé, en fait, qui n'était pas sur aucun document que j'avais vu jusqu'à présent, où il est mentionné Julien Coupa.
Ah oui.
Voilà. Julien Coupa et un groupe anarcho-autonome.
Mais c'est pas un mot que vous employez, vous? Anarcho-autonome?
Pas du tout.
Quoi, vous leur dites, mais non, c'est pas ça, c'est...
Je dis que moi, voilà, ce terme-là, je le dis, que moi j'ai vu sur le PV que c'était dans ce cadre-là que j'étais entendu. Mm-hmm. qu'un narco autonome, pour moi, c'était une pure construction de magistrat et que ça ne correspondait à aucune réalité ni politique, ni idéologique, ni de mouvement, ni de groupe, ni de... que personne, à ma connaissance en France, ne se réclamait de ça. Et que ça me semblait plutôt être un espèce de fourre-tout, une catégorie fourre-tout des services de renseignement. Quoi.
Et le mot ultra-gauche ?
Il n'est pas employé pendant la guerre des vues, c'est quelque chose qui a été suffisamment repris par les médias, ça. Oui, par, et enfin, par, c'est Allemari qui en a parlé.
Allemari qui l'a lancé.
Oui, c'était une espèce de truc à rallonge, groupe autonome d'ultra, groupe d'ultra-gauche de mouvement anarcho-autonome. Ouais. Ce qui, même d'un point de vue de l'histoire des idées, n'a aucun sens. Je lui dis, voilà, pour moi, l'anarchie, l'autonomie, c'est deux choses complètement différentes. C'est des choses qui sont aussi concrètes dans le temps, qui ont une histoire, qui ont... Et après, du coup, quand je lui dis ça, il me dit « Mais est-ce que vous considérez comme un autonomiste ?» Je dis « Autonomiste, pour moi, ça veut dire Corse, Basque ou Breton, quoi. » Mais vraisemblablement, lui, il ne connaissait pas...
Il est autonome et il dit autonomiste.
Quoi. Voilà. Pour lui, c'était la même chose.
Vous avez l'impression que votre interlocuteur sait des choses sur vous ?
Je commence à savoir qu'ils savent des choses sur moi quand ils commencent à me parler de manifestation. Ils me demandent...
On parle de quelle manifestation, alors ?
Puisqu'il y a au départ les questions de mon investissement à Tarnac, mon investissement associatif, ce sur quoi je travaille, le pourquoi de la vie en collectif, tout ça. Et à un moment, ils me demandent, bon voilà, est-ce que vous avez des activités politiques par ailleurs ? Est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes allé à une manifestation ? Et donc là, ils commencent à me parler de Vichy, quoi. Et petit à petit, donc ils en disent le moins possible, ils essayent de me faire parler moi, comme généralement je leur dis pas assez par rapport à ce qu'ils voudraient entendre, ils me donnent des détails en plus, ils me disent oui, vous avez été vu à tel endroit, avec telle personne, ils me posent qu'est-ce que vous faisiez dans cette manifestation, est-ce que vous faisiez quelque chose de particulier, vous n'avez pas distribué des tracts par exemple, ils me disent vous étiez à côté de qui, et puis là ça sort à ce moment-là, est-ce que Julien Coupa était là et, bon, après, il me signifie qu'ils savent qu'il était là, qu'ils savent que j'ai été vu à côté de lui dans cette manifestation-là. Et puis comme moi, je leur dis le moins possible, en fait, ils commencent à s'énerver un petit peu, puis ils disent, là, ils me disent que leur théorie sur le fait que Julien Coupa était dans cette manifestation-là, un leader, qui avait quelque chose de programmé, que lui donnait des ordres. Et que moi, j'étais vraisemblablement son bras droit dans ce cadre-là. Quoi. Une fois, ils ont dit
ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça, hein ?
Je dis non, que moi, je suis parti de chez moi le matin même, que je travaillais le matin même, que je suis parti avec un ami séparément, que j'ai effectivement retrouvé Julien là-bas, mais qu'on n'est pas du tout parti ensemble. On n'était pas parti. Et qu'il n'y avait pas que ce qui semblait.
C'était pas structuré comme.
C'était pas structuré comme on l'imaginait, quoi.
Ça veut dire que dans le PV de synthèse, à l'issue de vos gardes à vue, ils ont repris un bout du PV qu'il y avait eu à l'occasion des violences urbaines, des violences à Vichy, quoi.
Ah oui, oui. Ils nous ont dit clairement, on était là, on vous a vu.
Est-ce qu'ils vous parlent d'autres manifs où ils vous avez repéré et ils disent vous étiez là à tel endroit, à tel manif, il y a un an, deux ans, trois ans
Ils essayent, mais en fait, justement, quand ils me posent la question de savoir si j'étais à l'étranger récemment, si. Ils vont toujours par cercle concentrique, quoi. Ils n'essaient pas de révéler ce qu'ils savent pour voir si moi je le dis de moi-même ou pas, quoi. Et en fait, sur moi, y compris d'ailleurs, c'est marrant parce que même y compris sur la manifestation, à la fin, moi je finis par comprendre qu'ils m'ont vu au début avec Julien et qu'ils m'ont revu à la fin, quoi. Entre temps, ils savent pas du tout ce que j'ai fait, ils essayent de me faire dire des trucs, mais ils savent pas non plus ce que Julien a fait, ils l'ont perdu de vue, ce qui est quand même assez étrange, quoi, parce qu'il y a une brigade antiterroriste lâchée dans une manifestation qui arrive à lâcher une personne alors qu'ils suivent qu'une seule personne. Et en gros, ils ont que des suppositions, quoi. Des suppositions qu'ils avaient sans doute déjà avant d'arriver, qu'ils cherchaient à confirmer en étant là, mais sur lesquelles ils n'ont pas réussi à avoir ni d'éléments, ni photographiques, ni même, ils n'arrivent même pas à dire qu'eux-mêmes l'ont vu, quoi.
Et ensuite, ils parlent de TGV ou pas, finalement, là ?
Ah non, mais là jusque-là, non. Après, il me pose la question, après, c'est plutôt sur savoir si les contre-sommets, c'est quelque chose que j'ai fréquenté, est-ce que je me suis déjà fait arrêter par la police, est-ce que j'ai déjà parti à des manifestations ailleurs, en France. Un moment, pour me faire parler, ils me disent, on sait que t'as été à Évian. J'ai jamais mis les pieds de ma vie à Évian. Mais bon, il y a plusieurs temps, en fait. C'est difficile de remettre tout dans l'ordre, en fait, parce qu'après, il y a un moment... Après, ils me remettent en cellule, ils me ressortent. Et là, ils changent un peu de sujet pour... parce qu'ils sentent que c'est un peu tari sur ce truc-là, donc là ils me sortent un trombinoscope.
C'est toujours la première journée à Nanterre, ça.
Non, les journées, les nuits, c'est un peu... on ne voit plus trop ce qui se passe. Ouais.
Justement, on perd un peu le sens du temps, en fait. Donc, c'est difficile. Moi, j'aurais du mal à vous replacer ça dans l'ordre.
Et c'est quoi ce trombinoscope?
Bah, c'est un carnet avec des photos de gens. Des photos de gens, je sais pas, une quarantaine de photos. Et puis, il me demande...
C'est qui?
Est-ce que vous le connaissez? Quelle est votre relation? Les gens avec qui je suis, avec qui je vis officiellement, ouais. Avec qui que je vis tous les jours, avec qui je travaille, oui. Puis après, plein d'autres gens, dont beaucoup que je connais pas, hein, dont ils essaient visiblement de relier de manière ou d'une autre. Alors il semble y avoir une espèce d'ordre hiérarchique dans les photographies. Quoi.
Et moi, il y a plein de moments, je suis mort de rire parce que je me dis, mais oui, ils veulent en venir, quoi, parce que c'est. Donc ils sont assez surpris de ma réaction en général, mais c'est pendant au moins les deux tiers, je m'esclaffais régulièrement, quoi, parce que ça me paraissait absurde, quoi.
Ça les énerve un peu, du coup
ils tendent un peu le truc pour que je, ouais. que je prenne ça un peu plus au sérieux et que, bon, pendant tous les interrogatoires je suis attaché au lampadaire à côté, hein.
Et puis après ils essaient de jouer un peu les copains, ils disent ouais bon nous on comprend un peu, on peut discuter ouvertement, moi ça m'intéresse ces questions là je lui dis bah écoutez, si vous voulez qu'on discute vraiment, vous me détachez, on va en bas, on boit un café, quoi. Et là vous êtes avec votre ordinateur devant, vous me faites pas le coup, quoi. Je suis attaché au lampadaire. et puis au fur et à mesure, en fait, les choses se tendent. Au départ, on est content de sortir pour aller en audition, parce qu'on n'en peut plus de rester des heures devant le mur, à pas savoir ce qui va se passer. Puis au fur et à mesure, ils essaient de vous mettre mal à l'aise, quoi, quand même. Puis ils sont trois ensemble, et puis dès qu'ils ont dit un truc qui leur met la puce à l'oreille, c'est un autre qui pose une question, enfin, c'est...
Ok, les variations
de sujet. Ils sont pas méprisants ou brutaux ou des choses comme ça.
Pas méprisants, mais des questions. Alors voilà, vous évitez en communauté, donc vous faites des partouzes, des trucs comme ça. Des petites remarques au passage comme ça. Quoi. Est-ce que vous. Des trucs sur la drogue, enfin, je sais pas, sur. Tous les types de fantasmes qu'ils peuvent avoir par rapport à ce que c'est la vie collective. Quoi.
En général, ça commence à 13-14 heures, jusqu'à 19 heures. Et qu'est-ce qui se
voire
passe?
Voire plus, il y a un soir où je suis resté jusqu'à minuit quasiment.
Et après, ils vous remettent en cellule. Et après, ils vous réinterrogent dans la nuit.
Ils me font donner à manger. Alors là, on a une gamelle en plastique avec une petite portion de riz et une portion de sauce dont on imagine mal ce que c'est.
Parfois. Ça, c'est les rations qu'a instauré Sarko.
Ça, c'est infernal. À la fin, même en mort de faim et presque mort de tomber dans les pommes, on n'en veut plus.
Donc vous mangez ça et qu'est-ce qui se passe là? Vous dormez un petit peu ou ils vous.
Ouais, on essaie de dormir quoi. Mais c'est,
Ils viennent vous rechercher au milieu de la nuit?
Non, pas au milieu de la nuit, non. Non
mais la nuit,
ils dorment aussi parfois. Ouais,
non, mais vous foutent la paix la nuit, je veux dire, ils ne viennent pas vous perdre.
Bah, ils me gardent tard le soir parfois, mais oui, non, la nuit, après, ils foutent la paix. Ouais. Mais après, on sent qu'il y a un moment, ils laissent longtemps en cellule aussi, parce que ça travaille sur le mental, quoi, de rester longtemps en cellule.
Vous avez une montre?
Non, on m'a enlevé.
Aucune idée de l'heure qu'il est jamais.
Aucune idée de l'heure jamais.
Et à ce moment-là, vous savez qui ils interrogent à côté de vous?
Alors le TGV, après, ils sont venus au TGV, hein?
Ils sont venus au TGV, mais alors ça a commencé assez bizarrement. Donc la veille au soir, il me demande, à la fin, il me demande, est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire des caténaires de la SNCF? Je dis oui, je l'ai lu dans la presse. Quoi. Donc après ça, il dit bon, on continuera demain. Il me laisse mariner là-dessus, et puis le lendemain, j'arrive, et puis il s'installe, tout ça, et puis il me dit ça va, on est prêt, on peut y aller? Je dis ouais. Il me dit qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Et alors c'est parti, ce truc-là. Et là j'ai senti que lui, il avait un truc où il avait eu des informations nouvelles, en fait, qui faisaient qu'il changeait l'orientation de son interrogatoire. Quoi. Ça c'était le matin, donc il me pose des questions sur le nucléaire, ce que je pense du déchet nucléaire, Si, il me dit, est-ce que vous connaissez l'existence du train Castor? Est-ce que vous saviez qu'il... Ah oui, parce qu'il y a toute l'histoire... de l'endroit où j'étais cette nuit-là, en fait, où j'ai eu un contrôle de gendarmerie. Et donc il me parle de ça, il essaie de savoir ce que je faisais dans ma main. Un des trucs qui a fait qu'ils nous ont gardé nous, en fait, c'est parce qu'en fait, on a été contrôlé cette nuit-là par hasard, en fait, par une brigade de gendarmerie.
Ouais, près du lieu, c'est ça, c'est pas très loin de...
Non, enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que moi j'ai pas saisi exactement, j'ai pas eu le temps de faire des études approfondies sur où étaient les différents trucs. Nous, on était contrôlé dans une voiture, on dormait dans une voiture en fait dans la campagne.
En Moselle.
Et à proximité, ça je ne le savais pas, à proximité de la voie ferrée sur laquelle passait
le TGV.
Le dit-train. Non.
Le dit-train.
Mais il n'y a pas, d'après ce que je sais, moi, il n'y a pas de. Enfin, mon père me l'a pas dit. Il n'y a pas eu de sabotage dans ce coin-là. Hein.
Est-ce qu'ils vous ont inquiété sur quelque chose de votre avenir en disant...
Ah oui, ils m'ont dit clairement, notamment par rapport à mon histoire de présence dans l'Est et tout ça, si tu craches pas le morceau de pourquoi t'étais là, parce qu'on sait que c'est pas pour ce que c'est quoi tu dis, on sait déjà, tout ce qu'on veut c'est les aveux, on sait déjà tout, blablabla. Et de toute façon, t'as intérêt à être plutôt conciliant, c'est comme, parce que c'est le magistrat, derrière nous c'est le magistrat qui lit tes réponses, et plus tu seras conciliant maintenant, plus il y aura clémence, quoi. Sachant que, sache que tu risques gros, et que tu risques 10 ans, et que toi, pendant que tu dis rien, les autres ils t'enfoncent. De toute façon, je leur dis à ce moment-là que c'est bon, j'en ai marre, je leur dirai plus rien, et que, parce que j'ai failli tomber dans les pommes une heure avant, parce que voilà, je suis plus en état, je dis clairement, c'est inscrit au PV, je suis plus en état de répondre, quoi. Et là, ils me ramènent dans la cellule. Ils me font un coup très bizarre, c'est qu'ils me disent ça va être bientôt fini. Ils viennent me rechercher après, ils me refont une dernière interrogation qui est sur la demande d'une magistrat. Ils me demandent si j'imagine qui pourrait être responsable de ces actes.
Mais de quel acte? Des sabotages.
Des sabotages.
D'accord.
Mais dans l'absolu, hein, si j'ai une idée de qui ça pourrait être. C'est surpris. Ils me disent, je sais pas, parce qu'ils me disent, nous, tu vois, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il faut chercher ailleurs. Je comprends pas ces questions, quoi. Là. Et puis, du coup, après, ils me ramènent en cellule et ils me disent, bon, voilà, c'est fini, la garde à vue est terminée maintenant officiellement.
Libé, la bourre.